poste.
Plein de postes.
Sur Couleur 3.
Plein de postes.
Plein de postes.
Le magazine musical de Couleur 3.
Depuis qu'il a appris à jouer du sitar à Benares en 2011, celui que l'on connaissait alors sous le nom de Al Comet chez les Young Gods s'est fait rebaptiser par les musiciens de là-bas Mahadev Cometo, traduisé par le grand dieu Cometo, ou plutôt celui qui a les dieux avec lui. En tout cas, on reste dans les gods. Mahadev Cometo est avec nous ce soir en direct dans Plein le Poste. Bonsoir.
Hello.
Hello, il est déjà installé. Il n'est pas seul, il est venu avec son sitar pour nous présenter son nouveau projet Freedom. Qui est en fait un seul titre divisé en quatre parties, on vous en dira plus un petit peu plus tard. Il est installé, mais avant cela, on va lui faire écouter une nouveauté, lui demander ce qu'il en pense après. Voici, pour ouvrir ce plein de poste, Karl Barat and the Jackals, Sisters. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 20h. The Jackals, Sisters, c'est une nouveauté sélectionnée par Stéphanie Jovanovic ce soir. Stéphanie qui est partiellement en charge de la programmation musicale. Je dis partiellement parce que de l'autre part de la programmation ce soir, eh bien, il y a toi, Mahadev Cometo. On t'a demandé de venir nous proposer quelques titres et de nous en parler. Avant toute chose, juste un mot sur ce qu'on vient d'écouter. Du rock pur et dur, ça te parle ou...
Ouais, du rock pur et dur, j'ai trouvé bien. Ouais, ça envoyait pas mal la sauce, ça sonnait pas mal. C'était qui, t'as dit ?
Karl Barat, en fait. C'est un des anciens membres d'un groupe qui s'appelait The Libertines.
Ouais, ok, ouais, ça me dit quelque chose.
Ouais.
Non, c'est bien.
Ouais ?
Ouais, j'aime bien.
C'est peut-être pas assez fort, non, pour toi ?
Écoute, ça c'est une notion, toi, trop fort, pas assez fort, ça peut se discuter, hein. Toi, tout change.
Quand on a fait un titre qui s'appelait Envoyer,
ouais.
On peut s'attendre à ce que ça envoie un petit peu plus, peut-être, pourquoi pas.
Ouais.
Peut-être qu'on va juste dire qu'il y a Franck Pourpri qui est à la sonorisation ce soir de l'instrument que tu tiens entre tes mains. un instrument qui est donc le sitar. Tu es venu avec pour nous présenter ton projet. D'ailleurs, le titre qu'on vient d'écouter qui s'appelle Sister, c'est un nom qui ressemble en fait étrangement au mot sitar. Est-ce que ton sitar, c'est un petit peu ta sœur?
Je sais pas si je peux... Si je peux dire que ça se passe comme ça, non. Sitar, pour moi, c'est une nouvelle découverte qui est arrivée comme ça, assez incroyable dans ma vie, alors que je ne me doutais pas du tout que ça allait se passer. Si tu veux, j'étais à fond avec ces trucs de Young Gods, de rock assez énergique, assez similaire de ce qu'on a entendu, là, on pourrait dire, quelque part. Et... J'ai jamais à la base voulu jouer du sitar. C'est une affaire de mon frère avait acheté un instrument qui est devenu foutu avec les déménagements et les années. Il me l'a offert et il n'a jamais vraiment su en jouer, moi non plus. Et j'ai rencontré à Paris un luthier qui a été d'accord de le réparer. Et je trouvais que c'était un peu stupide d'avoir un sitar briqué à la maison. Autant avoir un sitar qui pourrait être joué. Donc j'ai demandé de le réparer. Alors il voulait pas mettre toutes les cordes, il m'a obligé à aller chez lui pendant plusieurs jours pour apprendre à jouer un peu ce truc. Et c'est quand j'ai commencé à en jouer que j'ai remarqué que ça se comportait pas du tout comme les instruments que j'avais joués jusqu'à maintenant. Je veux dire par là, lui me conseillait de jouer doucement et lentement, et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Quand il s'est absenté, évidemment, j'ai tout de suite eu envie d'avoir un peu la gomme. Puis quand j'ai mis la gomme, donc comme on fait avec tous les instruments, ben il n'y a plus rien qui se passait, puis le son s'écrasait et ça marchait absolument pas. Et ça, c'est le truc qui m'a déclenché ma curiosité, et j'ai commencé à me dire mais comment est-ce qu'on fait alors pour jouer avec de la pêche avec ce truc, comment ça se passe. Et quand je suis rentré de chez cet ami luthier parisien, je suis arrivé à Fribourg à la maison. Et le premier canard que j'ai pris dans les mains, c'est un journal qui s'appelle 1700, truc de la ville. Je sais pas, d'habitude je lis pas, donc je sais pas même pourquoi j'ai pris ce journal dans les mains. Mais je l'ai ouvert au milieu et je suis tombé sur un article du service de la culture qui mettait au concours 6 mois de résidence à Benares. Et évidemment, j'ai gagné le concours, que ça paraissait tellement évident. Mais jusqu'à ce que j'y sois allé, je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire là-bas et pourquoi. Et si tu veux, je n'arrivais pas à expliquer rationnellement mon élan. Parce que je n'avais rien à cirer, ni des Indiens, ni du sitar à la base. Donc c'est vraiment une histoire assez incroyable. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentré dans ce train qui est arrivé là dans ma vie. Je ne sais pas trop pourquoi j'y allais. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi, sans faire de jeu de mots.
Ouh.
Parce que ce truc, ben, tu vois, la position, donc il faut être assis en tailleur avec le pied de la jambe gauche qui passe sous la cuisse. Tout ça pour pouvoir poser la courge, caisse de résonance du sitar, dans la paume du pied. Avec le coude là qui vient sur la courge, ça permet, si tu veux, de tenir l'instrument par lui-même. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce que si tu ne sais pas le tenir, tu ne pourras pas déplacer ta main parce que le manche est trop lourd. Ça va tomber tout le temps. Donc, c'est primordial d'apprendre à s'asseoir de cette manière.
Voilà. Bon, écoute, tu es assis avec ce très bel instrument donc, qui est cette courge, qui est aussi, pour les profanes, on va dire peut-être une louche aussi, géante. Une louche géante avec 20 cordes. Et il s'agit en fait ces cordes de n'en jouer que finalement quelques-unes pour faire entrer les autres en résonance, et c'est ce qui donne ce son absolument typique du sitar. Et si on n'est pas en résonance avec l'instrument, et ben l'instrument ne joue pas. On peut presque dire que c'est l'instrument qui nous joue plutôt que nous qui jouons de l'instrument, que toi qui joues de l'instrument.
De toute manière, c'est une espèce de complicité, ça c'est sûr et certain.
Écoute, joue un petit peu, comme ça on pourra vraiment se rendre compte en fait de ce que c'est. Ouais. Tu es d'accord?
Moi, si tu veux, je peux expliquer en vitesse. On va dire que sur l'étage inférieur sont réparties les cordes sympathiques et elles sont accordées en fonction des notes du raga qui est choisi. Donc, le raga que j'ai là, c'est s'appelle rag bairagi. C'est un raga du matin parce que les Indiens, ils jouent pas n'importe quand, n'importe quoi, n'importe quand. Bon, là, c'est le soir, mais chez nous, on s'en fout. Hein. Donc joue Bairagi, Rag du matin. Donc voilà les notes du Rag Bairagi. Ça, c'est l'étage inférieur. C'est ces 13 cordes qui sont accordées au moyen de ces petites mécaniques qui sont réparties sur le manche. À l'étage supérieur, 7 cordes. Chikari, corde principale. La petite qui s'appelle la chanterelle.
Il y a des chanterelles en Inde?
Oui, alors c'est moi qui appelle ça comme ça. Donc voilà, donc c'est. Les notes sont les mêmes que chez nous, donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sa, Ré, Gamma, Pa, Da, Ni, Sa. C'est juste un autre nom, mais c'est les mêmes notes, la même gamme. Donc le Do, je pèse avec mon doigt sur la case du Do. Maintenant, je vais peser sur la case du Si. Et je vais monter à Do. Maintenant, les cordes sympathiques résonnent. Si je ne suis pas tout à fait juste, là, je vais descendre un peu. C'est fini, la résonance. Ça devient beaucoup plus petit, le son. Presque le malaise. Toute l'idée et la puissance de l'affaire, donc, pour arriver à jouer fort ou avec la puissance, il faut aller d'abord chercher dans la douceur et la tranquillité. Donc ça part, on va dire, à l'inverse de ce que j'ai pratiqué pendant un quart de siècle.
Ben écoute, je te propose en fait de faire découvrir à nos auditeurs en fait ce que ça donne. 5 ans de travail avec donc ce sitar à essayer de le faire cohabiter avec des machines sur ce projet que tu sors donc après demain qui s'appelle Freedom, que tu as autoproduit. On écoute un extrait puis on en reparle juste après. Un extrait de l'album Le projet de Mahadev Comet. Voilà ce projet qui s'appelle Freedom. Alors, je t'avoue honnêtement que moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de l'album, c'est ton projet. Et donc, c'est Freedom, c'est carrément le nom du titre. C'est un seul titre sur cet album que tu as fait.
Si tu veux, l'album, il s'appelle Freedom. Et puis, le titre, il s'appelle Raga. Ça, c'est, c'est chanson en indien. Oui. C'est une chanson de musique classique indienne. C'est un rag ou raga, même chose. Et ce raga, il y en a des centaines, hein. Mm. Et ce raga que je joue, c'est Shivaranjani. Les Indiens, si tu mixes avec quelque chose, tu vas appeler ça Mishra. Mais comme moi, j'ai mixé avec beaucoup de choses, j'ai appelé Super Mishra. Donc c'est Rag Shivaranjani Super Mishra.
Super
ça, c'est
protéiné.
Le nom de la chanson.
D'accord, tout simplement. Et qui se divise en quatre
parties différentes.
Parties différentes. Ouais. Voilà, absolument.
Que les Indiens lient en général.
Oui.
Directement, si tu veux, ils accélèrent les rythmes, ils changent le phrasé. Mais avec l'électronique, je trouvais ça pas très sympa. Donc j'ai préféré, si tu veux, partir dans une plage ambiante, sortir des rythmiques, et puis recommencer avec la nouvelle forme, sans forcément les lier rythmiquement ensemble. Quoi. Je trouvais ça mieux.
C'est ça qui est en fait assez incroyable, c'est que finalement, on s'y retrouve avec cet instrument qui est vieux de 3000 ans, et puis les machines aujourd'hui, et l'ambiante, finalement, on, les longueurs comme ça de l'ambiante, et on parlera de Brian Eno aussi, c'est quelque chose qui se marie finalement parfaitement bien.
Ben, disons, après 5-6 ans de boulot, ça se marie super bien.
C'est ce que tu me disais. Tu me disais que ça t'a pris 5 ans, finalement, pour faire ce projet.
Ouais, ça m'a pris 5 ans. C'était assez incroyable. Je pensais que ça allait être fait en quelques mois. Et puis, je suis passé de déboire en déboire, si tu veux, d'expérience pas concluante. Disons, je veux dire, tu vas au studio. J'avais pensé, la première session, faire une dizaine de jours de studio. 3 jours d'enregistrement, 7 jours de mix normal, quoi. Au troisième jour, on a pris nos clics, nos claques. Et puis, je suis rentré à la maison parce que c'était pas possible de faire fonctionner ces deux univers ensemble. Il y a rien qui jouait. Donc, je savais pas pourquoi ni comment. J'ai aussi réalisé que de faire un morceau de 40 minutes, c'est beaucoup plus difficile que de faire 10 morceaux de 4 minutes. Ça paraît évident quand on en parle, mais quand on le fait pas autant que ça, disons surtout au début du projet, c'était vraiment un challenge assez fantastique, où je me suis senti mal plus d'une fois.
Ouais,
parce que si tu veux, toi, la deuxième tentative de studio, tu refais 2 jours ou 3, il y a toujours rien qui se passe. Ça fait déjà une année que tu bosses le truc, toi, tu dis, attends, j'ai un problème là. Alors, deuxième année, je fais des concerts, des trucs, ça se passe bien, mais finalement, le disque, ça avance pas beaucoup plus que ça. J'étais à Londres, bossé avec Youse, qui est un producteur vraiment très, on va dire, compatible avec ce genre de projet. Donc, il est bassiste de Killing Joke. Il a produit des groupes comme Pink Floyd, le dernier Pink Floyd. Il bossait avec McCartney, des gens comme ça. Donc, c'est pas vraiment un novice. Et il était très heureux de pouvoir m'aider. Mais finalement, après une année d'échange de files et de voyages entre Londres et Marly, ça jouait pas. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a mis devant moi-même, mais le travail qu'on a fait en commun, il allait pas dans le bon sens. Ça donnait quelque chose un peu trop dub, un peu trop commercial, entre guillemets. En tout cas, ça jouait pas dans ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire un raga indien. Donc, je me retrouve de nouveau tout seul avec mes mains et puis mon sitar.
Alors tes mains, attends, juste qu'on en dise 2 mots, parce que tout à l'heure tu m'as montré comment tu jouais. Tu m'as montré, tu as joué à peine 3 minutes de ton sitar et tu avais déjà 2 énormes sillons sur ton index et ton majeur. La corne qui est absolument nécessaire qu'on se fasse, de faire, tu graisses. Tu m'as dit un truc marrant, tu m'as dit quand tu joues du sitar, tu fais pas la vaisselle 2 semaines avant.
Donc, si j'ai des concerts, non, une semaine avant, je fais plus la vaisselle.
Pourquoi?
Parce que justement, l'eau va ramollir la corne. Et puis, la dureté des cordes ou la pression qu'il faut mettre pour arriver à jouer plus ou moins correctement. La petite corde est quand même assez fine en diamètre. Et si tu veux, elle risque de s'insérer entre la partie corne morte de la peau et la partie vivante. Là, il y a une petite limite, frontière, qui est assez vulnérable.
Oui.
Donc si par malheur ça se faufile entre deux, ça te coupe comme une lame de rasoir sous la peau. Puis là, ça devient grave, quoi. Faut jouer avec des pansements après.
Donc, auditeurs, si vous avez un sitar qui traîne chez vous, en fait, attention avant d'y jouer. C'est un instrument capricieux et dangereux.
Ça peut.
Oui, ça peut être dangereux.
Ouais, ça peut être dangereux. Absolument. On peut se faire mal, vraiment.
On parle juste de, en fait, longueur de temps. 5 ans, c'est énorme. C'est des durées. En fait, on parle d'échec aussi, de pas réussir, de recommencer. Tout ça, c'est des notions qui sont pas du tout compatibles avec la vision des maisons de disques aujourd'hui. Tu l'as autoproduit justement cet album pour avoir cette liberté là.
Ouais.
C'est on laisse aujourd'hui le temps, c'est une variable qui est plus tellement reconnue, on va dire, dans la musique.
Si tu veux, je vais partir de l'opposé, dans le sens que j'ai réalisé que pour jouer du sitar tranquillement, non seulement il fallait apprendre la technique de l'instrument lui-même, mais que pour y arriver vraiment, il fallait se sentir soi-même calme et tranquille. Donc, par cette position dont on a parlé tout à l'heure, en tailleur, tout ça, là-bas, à jouer 8, 9, 10 heures par jour, j'ai tout de suite eu des problèmes de santé. Donc, mon gourou m'a proposé de faire du yoga. Donc, j'ai commencé à faire du yoga. Je n'étais pas spécialement enthousiaste au début, mais j'ai été émerveillé par ce truc-là, disons, et par la manière que les Indiens avaient de l'enseigner. Donc j'en fais toujours, tous les matins. Si tu veux, le yoga m'a amené à la méditation, et tout ça m'amène à une tranquillité interne. Donc c'est, on va dire, maintenant, pour moi, le temps a une autre dimension, c'est une autre valeur. Et je veux plus me laisser entraîner dans la valeur qu'on donne au temps dans notre société. Pourtant, je suis là comme tout le monde, hein, si tu veux, mais je me laisse pas, ou j'essaie de pas me laisser entraîner par la vitesse que la société actuelle donne autant.
Alors on va rester dans les ambiances orientales, pas forcément dans les sagesses, mais dans les sonorités d'aujourd'hui. On avait envie de te faire écouter quelque chose qui mélange les cultures et les sonorités.
What's up, Post sur Couleur 3. She Uchi Wally, her coochie smiling. She truly wildin', she do the styling. Her booty violent, she belly dancing. Romancing me while I'm watching belly. Her jelly moving, she doing me and I'm never jelly. She groove it, she move like a snake to the music.
She like my booty in the movies. She like the booty with the booty.
She move it, she try my snake when she moving.
She wanna go, yo, she wanna roti. She wanna boner, she wanna booty.
She whining, she whining to the rhythm that's moody.
And she want a man that's moody, man like me too, Pucky and a true G.
And she fly, she hella fly, she ride a shotgun in my Maruti.
Press my buttons like the Call of Duty, got me gas like the heels of a Luigi. I talk about women and race, I saw a body at the gym before a face. But when I saw a face, Ross, shout out to the holy face mask. She put me out of an unhealthy place, bruv. Tell me straight up when I'm off a straight path. She's a unicorn, bruv. You know it's real when you stop watching Pornhub.
She ride, stay by my side like it's her duty.
She fine, she fine, she fine. Let me taste that duty.
She sweet, she hella sweet. Tastes like a mango, tastes like a fruity.
She wanna beat, she wanna beat. She wanna beat like a rapper in a booth, G.
She a girl, I like her booty. I fuck with her even though she got the cooties.
I used to be unruly. She turned me into a foodie.
Yo, she a G, she a G. She a G just like Asha Putli.
It's peak, it's peak, it's peak. I asked her to move in.
Hey, I said, that's my girl, that's my girl.
Oh, that's my girl, yeah, that's my girl.
Oh, yo, that's my girl, that's my girl.
Hey, that's my girl, hey, that's my girl.
Sweatshop Boys, c'est le projet de Riz Ahmed, un acteur britannico-pakistanais qui a passé pas mal de sa carrière à être soit casté dans des rôles de djihadiste, soit être arrêté aux frontières parce qu'il avait une tête de djihadiste. Mahadev Komedo, ça te parle, tu découvres?
Ouais, je découvre, je sais pas trop quoi penser. Je crois qu'il y a pas mal de clichés les uns après les autres, comme ça. Je sais pas trop quoi dire, je pense pas que j'achèterai l'album.
Ouais.
Ouais. Je sais, il y a pas mal de clichés, des sons assez anciens, entre guillemets, quand même. Ouais, je suis pas sûr. Je sais pas. Faudrait que j'écoute plus, quoi, mais
ouais.
Je suis pas sûr que j'irai acheter l'album.
Est-ce que ça ressemble à, par exemple, des univers sonores auxquels tu as pu être, voilà, toi, confronté, mais exposé quand tu étais en Inde, ou bien quand on passe 8 heures par jour à jouer du sitar, on n'a pas tellement le temps, en fait, d'être un petit peu plongé dans d'autres...
Écoute, en Inde, il y avait que la musique indienne qui passait, et puis, on va dire, Beatles qui passait, pas mal, et puis Tricky, l'album Blowback.
Ah ouais.
Ça passait bien. Mais tout le reste, c'était quasi inaudible là-bas, pour moi.
C'est inaudible pour...
Pour moi, dans le sens que je n'arrivais pas à écouter ça. Je trouve que ça n'allait pas du tout dans le décor, que ça ne se passait pas du tout.
Mm.
Donc, voilà. Puis c'est vrai que, bon, comme... Tu vois, quand j'ai rencontré mon gourou la première fois, il m'a dit, tu joues déjà du sitar? J'ai dit, ouais, j'ai fait le malin. Il m'a dit, joue-moi quelque chose. J'ai joué 3 notes. Il m'a dit, ok, c'est bon, on va commencer depuis le début. Donc, quand tu commences à apprendre à lire ou à parler, tu vois, c'est vraiment pas très intéressant. C'est vraiment le béaba de la chose. Et puis, à quelque part, il faut accepter ça, puis le faire pour essayer de comprendre quelque chose, quoi. Donc, quand t'as fait le béaba toute la journée, justement, t'es lessivé. Je me posais même la question si j'allais savoir jouer de la musique un de ces jours, parce que t'as même l'impression que c'est pas de la musique, c'est apprendre la technique la chose, quoi.
Ouais, ouais.
Donc c'était assez déroutant sur le début.
Ouais.
Non, là-bas, Benares, en plus, tu sais, c'est un boucan permanent. Dans la rue, tout le temps. Les gens là-bas m'ont dit, écoute, faut que tu t'achètes des bouchons pour dormir, tu vois, parce qu'il y a trop de bruit. Mais tu mets des bouchons, ça change rien du tout, si tu veux. Il y a tellement de bruit. T'as même le temps d'enlever les bouchons puis d'écouter. C'est beaucoup mieux. Tu vas t'endormir beaucoup mieux. C'est pas possible de pas entendre. C'est extrêmement bruyant.
Ouais.
On peut pas se rendre compte ici en Suisse.
Ouais. Oui, ça fait partie d'ailleurs des villes les plus fortes au monde. C'est quoi, 100 décibels en permanence, quelque chose comme ça à peu près.
Je sais pas en décibels, mais c'est un boucan permanent, hein, tout le temps. Les gens, la route, les klaxons, dans leur manière de conduire, klaxonner est un truc. Disons, tu dois klaxonner pour dire que tu es en train de dépasser.
Mm.
Donc tout le monde klaxonne, tout le temps.
Ouais.
Parce que tu dépasses tout le temps quelqu'un. Si c'est pas le camion, c'est le piéton. Si c'est pas le piéton, c'est le vélo. Tu dépasses tout le temps quelqu'un.
Ouais.
Donc tout le monde klaxonne tout le temps.
Oui.
Donc c'est un boucan impressionnant. Sans compter les mecs qui chantent, les musulmans qui font leurs prières, enfin tout le monde hurle partout. Chante pour le plaisir, les gens ils chantent comme ça dans la rue, dans les parcs, chantent. C'est extraordinaire, franchement, c'est magnifique.
Eh ben, on t'a demandé de venir aussi avec une sélection de titres. On va écouter une de tes sélections justement, puis on en parle juste après.
Wow.
Eh bien, c'est un titre qui date de 1981 et qui fait partie d'un célèbre album qui s'appelle My Life in the Bush of Ghosts. C'est un album qui a été fait par Brian Eno avec David Byrne, chanteur des Talking Heads à l'époque. C'est un album qui est considéré comme culte, d'ailleurs. Pourquoi ce choix ?
J'adore cet album.
Ouais.
J'adore cet album et... Déjà là, tout au début des Gods, en 87, j'étais chauffeur et ingénieur du son du groupe. Et déjà là, avant les concerts, je passais cet album. Donc j'ai toujours été fan de cet album et je continue à aimer. D'ailleurs, ce qui est génial dans ce truc, c'est qu'on l'écoute aujourd'hui, puis j'ai l'impression que c'est plus moderne, à mon feeling, que ce qu'on écoutait tout à l'heure. Mm-hmm. À quelque part, c'est plus innovant et ça reste... quelque chose de nouveau, on pourrait dire, dans la manière de mixer, d'interpréter, de faire résonner les solos de guitare, de combiner comment Brian Eno à l'époque et David Byrne ont combiné la technologie de l'époque pour un résultat. Mmh. Je trouve que ça reste pour moi dans les gros trucs extraordinaires.
Mmh. Il y a quand même toujours un paradoxe et j'aimerais avoir ton avis sur en fait... la world music, en fait, qui est finalement quelque chose que nous, on nomme comme étant, on étiquette comme étant de la world music, mais qui finalement, en fait, est simplement le mélange de beaucoup de technologies différentes. Mm-hmm. Là, tout à l'heure, hors antenne, on parlait d'un artiste indien qui, en fait, au début des années 80, a été un des premiers à utiliser la TR-808. Mm-hmm. On n'a pas forcément dit qu'il faisait de la world music, qui était donc un mélange un peu de sonorités occidentales avec des sonorités un peu, entre guillemets, exotiques. Toi, comment tu considères ça?
World music?
Oui.
Bon, écoute, c'est un terme parmi d'autres. Alors, on va dire, dans ma propre culture, à l'époque, on n'avait pas toute cette classification de musique. Si tu veux, c'est de toute façon du world music. Moi, j'habite à Marly, lui, il habite à Sri Lanka ou à Delhi, on est tous de la planète World, et puis on essaie de se démerder comme on peut, non? Donc bon, Jimi Hendrix, il fait de la pop, mais bon, c'est quoi? C'est du World, c'est du rock, c'est, je sais pas, j'ai toujours trouvé un peu space de tout vouloir classifier, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment trop cherché à comprendre exactement quelle est la nuance entre bass and drum, puis drum and bass, tu vois, qu'est-ce que ça fait c'est un mec qui joue de la basse avec un batteur, ou bien c'est le batteur qui joue de la batterie avec un bassiste, je sais pas. C'est pourquoi pas classifier si les gens ont besoin de ça. Moi, j'ai pas été habitué vraiment comme ça. Il y a pas mal de trucs qui diffèrent. À l'époque de la jeunesse, ça fait quand même pas mal d'années, les maisons de disques, autant que les auditeurs, cherchaient la différence. C'est ça qui était intéressant. Si tu regardes un festival comme Woodstock, c'est quand même fou. T'as Rich Evans, t'as Santana, Jimi Hendrix, toi, si tu veux, il y a tout dans le truc. C'est quand même assez fou. Mm. Aujourd'hui, les maisons de disques, les labels, on dirait qu'ils cherchent quelque chose qui ressemble. Plus il y a de Radioheads, moi-même, je les confonds tous. Je crois toujours que c'est Radiohead, puis c'est chaque fois quelqu'un d'autre. C'est énervant.
D'ailleurs, juste ton exposition comme ça au monde, voilà, des choses un petit peu plus récentes, quel est le domaine finalement qui, quelque part, t'attirait le plus entre justement hip-hop, peut-être électro ou rock?
Je sais pas comment dire. Pour moi, je suis un peu partisan de Kurt Weill. Je sais pas si c'est un type qui a vécu pendant la guerre, là. Et puis lui, son concept, c'était plutôt de dire qu'il n'y a que deux musiques. Il y a la bonne musique et la mauvaise.
Oui.
Alors, j'aime assez ça parce que si tu veux, j'aurais tendance à dire il y a plutôt la musique qui te touche et puis celle qui ne te touche pas.
Ouais.
Alors, peu importe les styles, ça peut être du yodel.
Ouais.
Il y a le yodel qui touche, puis il y a le yodel qui ne touche pas. Et puis, ça peut être n'importe quoi d'autre, c'est la même chose.
On est un peu tous des sitars, on a deux couches de cordes et puis il faut savoir faire résonner en fait avec une corde, la deuxième corde pour qu'il y ait une forme de sympathie, voilà,
musicale,
c'est quelque part un petit peu ça.
C'est un peu ça.
Mahadev Kometo, tu es avec nous jusqu'à la fin de l'heure, mais on a un rendez-vous dans Plein le Poste, c'est celui de l'album de la semaine. Cette semaine, il s'agit d'un autre album autoproduit, c'est celui de Bonaparte qu'on découvre chaque soir en exclusivité puisqu'il ne sort que vendredi. Bonaparte, tu connais ? Ça te dit quelque chose?
J'ai entendu parler, ouais, mais...
Ouais, Tobias Jund, il est domicilié à Berlin et il fait présence scénique assez incroyable. Il fait des projets complètement fous, mais là, il s'est un petit peu calmé. On lui a proposé la même chose qu'à toi, d'ailleurs, c'est-à-dire de piloter l'émission de jeudi. On écoute un extrait de ce nouvel album qui s'appelle The Return of Stravinsky Wellington. Stravinsky Wellington, c'est le nom de son chat. C'est un album qui sera suivi d'un des titres de ta sélection. Oh.
Yeah. In the crowd you were waving at me. I know you weren't really waving at me. You were waving at someone else. Well, I used to be someone else. Now these days I'm feeling more like being myself. And that's a good thing, maybe you should try it yourself. I'd be cool with that. Come on.
Thank you.
Un groupe qui débute dans plein de postes, évidemment ce sont les Beatles, Tomorrow Never Knows. C'est un choix que tu nous as apporté, Mahadev Kometo, que peut-être qu'on rappelle que ces jours-ci on célèbre les 50 ans de la sortie de Sgt. Pepper, puis que cette année on célèbre aussi les 50 ans du Monterey Pop Festival, qui est un festival lors duquel on a invité Ravi Shankar à venir jouer. Et d'ailleurs il est le seul artiste à avoir été payé du festival, tous les autres ont joué gratuitement, mais lui il a quand même joué 4-5 heures, donc on a décidé quand même de le payer une demi-journée, voilà.
Pauvre Jimmy, il a même perdu sa guitare, il a foutu le feu à Montréal.
C'est ça, il a foutu le feu, ouais. Il s'est bien cramé les mains d'ailleurs à ce moment-là. Petit souvenir, toi tu faisais quoi en 66-67?
66-67, attends, moi je suis né en 59, je sais pas grand-chose. J'étais à l'école enfantine, oui, je sais pas.
T'avais conscience de ce monde? Les Beatles, c'était quelque chose que tu connaissais?
Les Beatles, ouais, parce que mon oncle était parti là à Londres et puis il était rentré avec Revolver et puis il était en pleine Beatlemania. Et puis c'est, ben toi, ben voilà, ça c'est le dernier morceau de la face B de Revolver, Tomorrow Never Knows. Mm-hmm. Et c'est ma plus tendre enfance, ça.
Ouais.
Ça, donc c'est les premières chansons pop rock qu'on peut dire qui arrivaient dans mes oreilles. Puis je suis super fan des Beatles, j'ai toujours été, je trouve que c'est extraordinaire.
Ouais. Avec déjà du sitar.
Ça, sur ce morceau, je ne sais pas s'il y a du sitar, mais en tout cas, c'est, tout l'album il est très influencé par la musique classique indienne,
ouais. Ouais.
Presque sur les modes indiens. Ouais.
Ouais, c'est là où cette période-là, justement, où George Harrison était parti apprendre.
Ouais.
Ouais. Il y a toujours ce mythe en fait, de George Harrison et de Ravi Shankar, finalement, quand on entend les gens partir. Et c'est indécrottable comme ça, où il y a toujours cette espèce de fantôme des Beatles là derrière quand on se met au sitar.
Je sais pas, lui, il a fait ce plan-là, et puis il est parti. Puis je crois qu'à l'époque, ça a donné une espèce de mode dans les années 60-70. Il y a pas mal de groupes qui ont commencé à mettre du sitar dans l'affaire. Je sais pas, ouais, c'est une espèce de quête de la liberté ou de, je sais pas, quelque chose comme ça, je pense.
Puis tu m'as dit tout à l'heure aussi qu'en Inde, ils arrêtaient pas d'écouter les Beatles aussi.
Moi, j'arrêtais pas d'écouter les Beatles.
Toi, tu n'arrêtais pas.
Moi, je trouvais que cette musique allait bien là-bas.
Ouais.
Ben, forcément, vu qu'il y a beaucoup de...
Ouais, et puis quand on t'a fait choisir Titi, tu m'as dit, mais mince, j'ai choisi que des vieux titres en fait.
Ben écoute, j'ai remarqué à l'occasion, donc hier soir, que je sais pas si c'est comme ça pour la plupart des gens, mais j'ai l'impression que il y a la musique qui imprègne le cerveau à un moment donné dans la vie, et puis peut-être que une fois que ça c'est fait et puis que ça t'a pris tout ton potentiel sentimental ou sensibilité, une fois que ça a été occupé, en tout cas pour moi, c'est comme si ça va rester jusqu'à la fin. Et je ne sais pas si je vais pouvoir remplacer avec des trucs nouveaux.
Oui.
C'est comme si la place est prise.
Oui.
Alors, je serais content de parler avec des plus jeunes, où c'est qu'ils en sont, et puis qu'est-ce qu'ils aiment bien. Et puis, je leur donne rendez-vous dans une
trentaine. Je suis sûre que ce serait une conversation intéressante où on te demanderait à toi aussi, les plus jeunes, de leur dire ce qu'il faut écouter. En tout cas, il y a une théorie qui dit qu'à 33 ans, c'est terminé, on renouvelle plus ses goûts musicaux. Enfin, ben voilà, la vie est faite de théories qui sont faites pour être contredites, pourquoi pas. En tout cas, en dernier titre de cette heure, avant que tu ne retournes nous jouer quelques minutes, tu es en train de contrôler si tes doigts fonctionnent bien pour aller rejouer du sitar. On va écouter une nouveauté justement, Songhai Blues, Mali Nord featuring Elf Kid.
Faranda ngare ibobo watikul kala sara kinanga madam
Voilà, Songoy Blues, Malinor featuring Elf Kid et Mahadev Kometo a repris sa place avec son sitar pour terminer cette fin d'heure de Plein le Poste. Nous t'écoutons.
Thank you.
extrait de la salutation au soleil, enfin du raga du matin. Salutation au soleil, ça c'est du yoga en fait. C'était plus pour dire que si vous aviez envie de faire une salutation au soleil suivie d'un chien tête en bas, voilà, pour vous reposer, eh ben c'était le bon moment. Merci à Mahadev Kometo d'être venu ici dans Plein le Poste. On rappelle juste que tu vernis donc cet album le 31 mai. Juste redis-nous où c'est.
À lui, Tony.
Ouais. Excellent. Et puis qu'après tu seras puis le 17 juin pour Jardin Cosmique et le 24 juin à Fenalay. Merci à Franck Pourpris pour le son. Merci à Sacha pour la technique. Juste après les informations, vous avez rendez-vous avec Culture Club. Bye bye.